de suite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet.
Vous êtes en train de réaliser un film avec une grosse créature, un dinosaure, un gorille ou un autre monstre, quel qu'il soit. Votre bête, vous devez la faire exister face à vos acteurs. De nos jours, tout se fera par le biais du numérique. Les acteurs joueront en face d'un espace vide, comblé ensuite en post-production. Avec la performance capture, ils pourraient même avoir un autre comédien en face d'eux, remplacé ensuite par un double numérique dont il aura guidé tous les mouvements. Le numérique est aujourd'hui la norme, mais des années 60 aux années 90, il fallait évidemment procéder autrement. Le meilleur moyen de faire vivre une créature à l'écran, c'était l'animatronique. Sur le papier, le principe est simple. Vous construisez une réplique de votre grosse bête et cherchez à être le plus proche possible de sa taille réelle. Par exemple, un crocodile. Votre monstre artificiel est généralement fait en latex, mais il est surtout équipé de mécanismes internes qui lui permettent de bouger. Le gros avantage, c'est que vous pouvez le filmer directement et que vos comédiens ont quelque chose en face d'eux. L'animatronique, Walt Disney a été un des premiers à l'expérimenter dans les années 50, mais c'était pour ses parcs d'attractions. Ce n'est qu'en 1964 que les animatroniques font leur apparition au cinéma, dans Mary Poppins, une production Disney. Les animatroniques serviront ensuite dans de nombreux autres films, Le requin des dents de la mer en 1975, King Kong en 1976, E.T. en 1982, Jabba le Hutt dans Le retour du Jedi en 1983, Gremlins en 1984, La Reine dans Aliens le retour en 1986, et j'en passe. Au départ, les animatroniques fonctionnaient avec des mécanismes simples comme des câbles. Mais au fur et à mesure qu'ils se sont perfectionnés, ils sont devenus des créatures actionnées par des servomoteurs radiocommandés. C'était par exemple le cas du gorille dans le King Kong de 1976. En fait, une réplique de 12 mètres de haut a été construite sur une structure en aluminium, le tout pesait plus de 4 tonnes et il fallait pas moins de 20 opérateurs. Mais le gros hic, c'est que la mécanique était si complexe qu'il était quasi impossible de la faire fonctionner. Et c'est pour ça qu'on en voit très peu de plans d'ensemble dans le film. Pour les plans où Jessica Lange est dans la main du gorille, les bras, les mains et les doigts sont en animatronique. Vous aurez peut-être envie de me dire que c'est un lot de consolation après les complications de la réplique globale du gorille. Un lot de consolation, peut-être, mais cette fois, les mécanismes ont plutôt bien marché et le résultat à l'écran s'en ressent. Now. Le célèbre marionnettiste américain Jim Henson, créateur du Muppet Show, utilise les animatroniques dans son film Dark Crystal en 1983, mais aussi sur La Petite Boutique des Horreurs, réalisé par Frank Oz en 1986. En 1979, il crée le Jim Henson Creature Shop, qui fabrique des marionnettes et des animatroniques pour la télévision et le cinéma. Sorti en 1993, Jurassic Park de Steven Spielberg représente une œuvre charnière. D'un côté, il fait revivre des dinosaures au moyen d'effets numériques alors très nouveaux. Mais de l'autre, il se sert aussi d'animatroniques pour compléter sa galerie de dinosaures. Et pas n'importe quel animatronique, ceux d'un orfèvre en la matière, Stan Winston, qui avait aussi travaillé, entre autres, car la liste de son œuvre est longue, sur les cyborgs de Terminator. Comme le gorille de King Kong, les animatroniques de Jurassic Park donnent dans le gigantisme. Ainsi, le T-Rex fait 6 mètres de haut et pèse presque 8 tonnes. C'est la créature la plus imposante que Stan Winston et son équipe aient jamais construite. L'avènement du numérique n'a pas marqué la fin de l'animatronique. Ainsi, le serpent dans Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002 en est un. Et en 2006, dans le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, le crapaud et la racine de Mandragore en sont aussi. Alors, oui, bien sûr, c'est tentant de trouver l'animatronique pâteau face aux possibilités du numérique. Mais son avantage, c'est d'assurer une présence physique à l'image et de pouvoir être filmé en temps réel, sans qu'il y ait besoin de tout ajouter en post-production. En fait, l'animatronique fait partie de ces éléments qui peuvent donner une âme à un film.
C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Gunet. Une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h et 15h sur Art District.